Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, aujourd'hui, on a une émission pour échanger un peu sur la mode. Alors, c'est devenu un vrai sujet écolo parce qu'il y a des tas de fringues, de textiles qui partent dans tous les coins du monde et qui viennent encombrer les décharges du Sud ou des associations humanitaires. Alors, souvent, on croit faire un bon geste. Plutôt que jeter, on préfère donner. Mais voilà, ce n'est pas forcément une bonne action. Depuis quelques temps, nos nippes s'entassent et viennent encombrer les décharges du Sud. Pierre Condamine, des Amis de la Terre France, répondra à nos questions. Mais avant d'aller plus avant sur le sujet, retour sur la nouvelle de la semaine. Le pape François est mort. Alors bien sûr, vous en avez largement entendu parler. Mais parce qu'il représentait tout ce qu'exècre l'extrême droite, le pape François, mort ce lundi 21 avril, risque de nous manquer. Rappelons que sa seule arme était sa parole, ses déclarations morales qui pouvaient éventuellement influer les 2 milliards de chrétiens dans le monde. Il est permis de contester, même voire de condamner, ses positions conservatrices sur l'avortement, sur la place des femmes, sur les méfaits de l'Église. Mais comment ne pas saluer ses prises de parole courageuses, audacieuses, eu égard aux résistances de la Curie sur le plan social ? Son soutien de fervents défenseurs de la paix, son soutien des plus vulnérables, des victimes du capitalisme, des migrants. Il a clairement interpellé les dirigeants de ce monde sur leur responsabilité active ou passive dans les embrasements guerriers pour la destruction de la planète. Commentateurs et citoyens ont trop souvent oublié l'encyclique qui avait publié presque aussitôt sa nomination. Son message écologique, porté par Laudato Si, son souci de la maison commune qui empêche, disait-il, de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme simple cadre de vie. Il n'y a pas deux crises séparées, écrivait-il encore, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Voilà pourquoi, quand on parle d'une utilisation durable, il faut toujours y inclure la capacité de régénération de chaque écosystème dans ses différents domaines et accès. Et rejoignant de nombreux scientifiques et penseurs avant lui, il a rappelé que la liberté humaine est capable de limiter la technique, de l'orienter, comme de la mettre au service d'un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus intégral. Revenons donc à notre sujet. Pierre Condamine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission aux Amis de la Terre avec un large spectre d'intervention, de travail. Alors, il n'y a pas que la fast fashion dont nous allons parler aujourd'hui qui est le sujet de ce jour. Sur quoi travaillez-vous exactement ?
Je travaille sur la surproduction.
Alors, c'est-à-dire ?
La surproduction, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on produit beaucoup trop de biens de consommation, de vêtements, de téléphones, de produits électroniques, de meubles, par rapport aux limites planétaires. C'est-à-dire qu'on extrait beaucoup plus de ressources que la planète ne peut en générer et en régénérer, et qu'on émet beaucoup trop de CO2 par rapport à ce qu'on peut absorber, et que surtout cette surproduction, elle ne sert plus vraiment le bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est saturé de biens chez soi. On a 50 vêtements par habitant qui sont achetés chaque année. On a en moyenne 20 produits électroniques par foyer qui sont aussi achetés chaque année. C'est énorme et en fait, ça ne sert plus à un bien-être. Ça sert juste à écouler les stocks des entreprises qui, à l'aide de stratégies très subtiles, font tout pour nous faire consommer.
Alors, on va en parler, bien sûr, bien plus longuement. On va voir comment on peut lutter, notamment sur un point de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire la mode éphémère. Alors, écoutons d'abord ce que nous disent les jeunes manifestants qui s'étaient réunis à Paris devant le jardin du Luxembourg, où siège le Sénat. Nous étions en mars dernier, vous y étiez d'ailleurs, on vous entendra, bien sûr, comme nous sommes à la radio, on ne vous verra pas. Et on attendait le vote des sénateurs pour dénoncer ce qu'on appelle désormais la mode éphémère. Et nous savions que la commission préparait un texte qui n'était pas du tout satisfaisant. On les écoute.
Ce que vous voyez derrière moi, c'est 10 tonnes de vêtements de fast fashion. Cette action, elle a été organisée par le collectif Stop Fast Fashion et elle se trouve à deux pas du Sénat. Parce qu'en fait, l'Assemblée nationale a voté il y a un an une loi, mais le Sénat ne l'a toujours pas mis à l'ordre du jour.
C'est que des vêtements qui ont été donnés par plein de biais, soit qu'ils ont été donnés directement à des structures en les déposant, soit qu'ils ont été déposés dans des bornes, comme on en voit un petit peu partout en France, et donc qui ont suivi le circuit et qui sont arrivés dans des centres de tri ou directement dans des structures Emmaüs. On ne sait plus quoi faire de toutes ces quantités de vêtements que l'on reçoit. Et donc il y a parfois des structures qui aujourd'hui refusent des textiles parce qu'on n'a ni place pour les stocker, ni de bonnes idées pour leur faire vivre une seconde vie.
On est une coalition aujourd'hui de 11 associations qui défendent des enjeux très différents, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux de précarité. Et ce qu'on veut montrer avec ça, c'est que le problème de la fast fashion, c'est pas seulement l'environnement, c'est tout ça réuni. Et c'est pour ça qu'on veut parler d'un front commun.
Chaque année qu'on perd pour freiner la fast fashion, c'est une année de perdu pour freiner la pollution et pour freiner aussi l'exploitation humaine que cette fast fashion représente.
Cette proposition de loi vise à leur fixer des malus pour en fait leur faire changer leurs pratiques et justement produire des vêtements en de meilleure qualité avec des meilleurs matériaux, dans de meilleures conditions aussi si possible et en moins grande quantité parce qu'il y a aussi une question de quantité mise en marché. Il y a urgence à agir parce que justement tout le temps qu'on met à adopter cette loi, c'est du temps qu'on laisse aux enseignes de la fast fashion de continuer à inonder le marché en France.
Alors, cette dernière intervention, nous remettait un petit peu les choses en place, et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Donc, on avait eu une proposition de loi qui avait été votée, adoptée à l'unanimité par les députés et qui devait donc pénaliser un petit peu la mise en œuvre de cette fast fashion. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui était prévu par la loi exactement ?
Alors, dans la loi, il y avait, on va dire, deux mesures clés. La première, c'est tout simplement une interdiction de la publicité pour des marques de fast fashion. On pourra peut-être revenir dessus après, c'est
oui, bien
très
sûr,
compliqué
bien sûr.
De définir ce qu'est la fast fashion. Mais en tout cas, si on était considéré comme de la fast fashion, on avait une interdiction totale de faire de la publicité. Donc, à la fois, on va dire, en physique, des panneaux publicitaires, dans des arrêts de bus, etc., mais aussi en ligne. Surtout sur les réseaux sociaux. La deuxième mesure qui était aussi extrêmement importante, c'était le fait de pénaliser financièrement des entreprises de fast fashion lorsqu'elles commercialisent un produit en France via un éco-score, c'est-à-dire que je suis une marque de fast fashion, je veux vendre ce t-shirt, mais il y a en France, va arriver un éco-score donc qui... on va dire, et évalue l'impact environnemental de ce t-shirt, mais aussi les pratiques commerciales de l'entreprise. Et si mon t-shirt a une mauvaise note, et bien pour commercialiser, pour vendre ce produit en France, je dois m'acquitter d'une sorte de pénalité financière qui pouvait aller jusqu'à 5 euros. Et donc ça, c'était essentiel, parce que la fast fashion, c'était la mode rapide, mais du coup, la mode rapide, ça veut dire des quantités énormes de vêtements. Et
alors,
quand on vend autant de vêtements, eh bien, il y a besoin de faire des toutes petites marges sur énormément de vêtements. Et ce que fait cette loi, c'est qu'elle empêchait ça, en pénalisant financièrement.
Alors, donc, vous avez envie, on le sent, de nous expliquer un petit peu mieux ce qu'est la fast fashion. Enfin, c'est devenu un terme qu'on utilise couramment maintenant. Mais finalement, il y a peut-être besoin de savoir exactement de quoi il s'agit.
Oui, alors, la fast fashion, en français, c'est mode éphémère, ou moi, je préfère le terme mode rapide. La mode, c'est des tendances. C'est des tendances esthétiques de vêtements qui sont, on va dire, à la mode à un certain moment.
Mais on aime tous ça, quand même.
Voilà, on aime tous ça. Mais l'arrivée de la fast fashion, c'est de comprendre, c'est des entreprises qui ont compris que si elles accéléraient le cycle des tendances, elles rendraient plus rapidement obsolètes les tendances précédentes, mais donc elles pourraient vendre aussi plus de nouveaux produits.
Alors, en fait, c'est des nouvelles marques, des réseaux sociaux, des influenceurs, tout ça fait partie d'un réseau qui est fait pour vendre plus, pour remplacer davantage et plus vite encore les vêtements qu'on porte.
C'est ça. Encore que les réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sociaux, c'est assez récent, mais les premières, on va dire, marques de fast fashion, c'est des marques comme Zara, dans les années, fin des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, où c'est des marques révolutionnaires à l'époque, là où avant on était sur deux ou quatre collections par an en fonction des saisons, là Zara arrive et propose une collection par semaine de plusieurs centaines de modèles, donc c'est déjà une révolution. Mais aujourd'hui, en effet, on a des nouvelles marques comme Shein, des marques chinoises qui vont encore plus loin et qu'elles proposent carrément des milliers de nouveaux modèles par jour. On est vraiment dans quelque chose de dystopique et c'est un modèle qu'on a poussé au bout, en tout cas, on pense aujourd'hui.
Alors, les députés, en fait, l'Assemblée nationale était assez unanime sur le sujet et c'est assez rare quand même, surtout que c'était quand même une période où on était encore dans l'instabilité sur le plan gouvernemental et finalement, une unanimité comme ça, c'est rare.
Oui, c'est très rare. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup, en tout cas... sous l'ère de Macron, enfin depuis 2022, il y a eu beaucoup de textes qui ont été votés comme ça à l'unanimité. C'est très rare, mais cette loi aussi, ce qu'elle propose, évidemment, il y a un aspect environnemental très fort, il y a un aspect social aussi, même s'il est moins présent, même si on a essayé de tout faire pour qu'il soit le plus présent dans la loi, mais quand on s'attaque, on va dire, aux dynamiques de surproduction de l'industrie de la mode, on s'attaque aussi à l'exploitation sociale en Bretagne, mais il y a aussi une dimension économique qui est qu'en France, le secteur textile français, vraiment de production de vêtements, il a perdu 300 000 emplois pendant les 30 dernières années.
Donc d'après vous, il y avait aussi une dimension géopolitique, c'était en fait, il fallait regagner sur la Chine.
Il y a de ça, très clairement, cette loi, elle était aussi motivée par l'arrivée de ces acteurs chinois, donc les principaux, c'est Chine et Temu, qui sont extrêmement forts, qui en 4-5 ans sont aujourd'hui dans le top 3 des plus gros vendeurs de vêtements en France. Donc il y a une dimension géopolitique aussi.
En fait, on avait eu cette loi et on était dans l'attente de la réaction donc du Sénat et une réaction qui se faisait attendre. Mais vous aviez eu connaissance du texte que la commission avait préparé et qui allait être mis aux voix. Et ce texte ne vous plaisait pas du tout.
Non, ce texte, il est en cours là. C'est-à-dire que la commission a déjà fait son travail, il a été modifié. Et il affaiblit fortement les dispositions du texte original. C'est-à-dire que la publicité n'est plus interdite seulement... En tout cas, il y a une interdiction de la publicité seulement sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, les pénalités financières dont j'ai parlé, jusqu'à 5 euros par produit, par vêtement, ne sont plus basées sur l'éco-score, mais sur... Des pratiques commerciales et industrielles, enfin, c'est écrit comme ça dans le texte, mais ça ne renvoie à aucune réalité juridique, et donc c'est très probable que ce soit clarifié bien plus tard, peut-être trop tard, et surtout par les lobbies, dans l'ombre des lobbies, parce qu'on sait que ce genre de travail réglementaire, très technique, en général, les associations ne sont pas les plus écoutées.
Alors là, on va revenir un petit peu de ça. Simplement, je voudrais dire que effectivement, ce secteur mérite largement d'être réglementé, puisque on a 150 milliards de vêtements produits chaque année et que l'industrie textile mondialisée représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, en fait, c'est plus que le trafic aérien et maritime réunis. Et le retard dans le calendrier sénatorial pourrait être lié aux pressions
Des industriels de la fast fashion, comme vous l'avez dit. Par exemple, on sait que Christophe Castaner, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur entre 2018 et 2020, a été embauché par Chine, qu'il défend la marque dans les médias. Et le groupe Chine n'est pas le seul à scruter la proposition de loi. Plusieurs enseignes françaises ont intérêt à ralentir le processus d'adoption. Et alors, effectivement, bon, on commençait à en parler un petit peu ensemble. C'est une espèce de jeu d'équilibriste. Il faut faire en sorte que la loi soit sévère pour les géants étrangers, mais qu'elle ne gêne pas trop les industriels qui travaillent en Chine, les nôtres, et qu'elle ne s'applique pas au secteur français. Alors, tout cela est compliqué. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir y parvenir ?
Je pense qu'il ne faudrait pas y parvenir. Je pense qu'il faudrait, si on veut vraiment limiter l'impact de l'industrie de la mode, il ne faut pas seulement se cantonner à des géants étrangers, mais en fait, on a des marques en France, même des enseignes comme Zara, comme H&M, comme Primark, qui sont européennes, qui ont des pratiques nocives pour l'environnement, pour le social. On a des marques françaises comme Decathlon ou Kiabi qui produisent énormément, qui vendent très peu cher, et pour vendre autant à des prix aussi bas, il faut exploiter l'environnement, il faut exploiter les populations qui produisent ces vêtements.
Mais pourtant, on a quand même pas en Europe les ouvriers esclaves à 3,50 € de l'heure, comme on peut l'avoir au Bangladesh, etc. Donc, on a quand même des lois qui réglementent la fabrication en Europe.
Oui, mais les marques que j'ai citées ne fabriquent pas en Europe. On peut être il y a beaucoup de marques françaises qui ont leur siège basé en France, mais qui ne produisent pas en France, qui produisent justement en Bangladesh.
Et donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer alors, qu'il faut réussir à jouer.
C'est ça exactement. On essaie de faire en sorte que cette loi elle concerne l'ensemble du secteur et qu'elle permette la transition du secteur. Mais pour nous, ce serait un véritable acte manqué, un coup d'épée dans l'eau, de limiter ça à deux acteurs symboliques, certes, mais qui ne représentent pas du tout l'entièreté du secteur.
Oui, c'est-à-dire que vous pensez que ce serait complètement ridicule si on ne s'attaquait que aux marques chinoises, Chine, et puis je ne sais plus laquelle d'autres vous avez noté.
C'est ça. C'est une loi qui a un objectif de réduction d'impact environnemental.
Oui, alors il y avait justement une question concernant le nombre des références. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Parce que c'est compliqué.
C'est très compliqué. En effet, mais ce qu'on propose, c'est qu'au-delà de 10 000 références...
Mais qu'est-ce que c'est que vous appelez une référence?
Alors, une référence, c'est un modèle de vêtement divisé en couleurs.
D'accord.
Un vêtement, voilà, je vais dans un magasin de vêtements ou je vais en ligne sur un site de vêtements, il y a ce t-shirt à coupe serrée, je dis ça au hasard, ça c'est un modèle. À côté, il y a le t-shirt à coupe large et puis il y a le col Mao, etc. etc. Une référence, c'est ce modèle avec différentes couleurs, c'est-à-dire ce t-shirt, mais en rouge, en bleu, en vert. On considère que les références, l'entièreté des références qu'une marque propose, ça va donner envie de consommer. Plus il y a de références, plus il y a de modèles disponibles et mis en avant par une marque, plus on va se dire, ce modèle-là, je ne l'ai pas, ce modèle-là me donne envie, et donc je vais avoir envie d'acheter. Et c'est une des composantes clés aujourd'hui de la mode rapide, c'est toujours fournir plus de modèles, toujours donner envie aux individus d'acheter des nouveaux modèles, puisque du coup, les anciens sont obsolètes.
Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que vous voulez supprimer cette gamme de couleurs?
Non, ça veut dire qu'au-delà d'un certain nombre de modèles proposés, de références proposées, on considère que c'est de la fast fashion.
Ah d'accord. Vous avez fait une... Vous avez, je suppose que vous travaillez à partir d'une base. Donc cette base, c'est combien de références pour qu'on reste un peu dans les clous, quoi? C'est-à-dire qu'à la fois, il y ait une offre, mais en même temps, qu'il n'y ait plus tellement de souffrance.
Oui, ce qu'on propose, c'est qu'au-delà de 10 000 références, on soit considéré comme de la fast fashion.
Et on est à combien aujourd'hui?
Ça, c'est par marque. C'est qu'une marque soit considérée comme de la fast fashion au-delà de 10 000 références.
D'accord. Okay.
On n'a pas beaucoup de données là-dessus. Je vais prendre Chine. On avait fait une étude là-dessus en 2023, donc ça date un peu. Chine, il y avait 470 000 références.
Oh, c'est énorme. Et là, voilà. Vous voulez réduire à 10 000
Non, on ne veut pas réduire. On veut qu'au-delà de 10 000, ce soit considéré comme de la fast fashion.
Ah, d'accord.
On n'a pas le droit de faire de la publicité. Des marques qui, malheureusement, n'existent plus ou sont en difficulté, comme Pinky ou Kukai, des marques françaises, elles ne dépassent pas les 2 000 références. Donc, on voit bien que, même avec 10 000, on est finalement assez large. Et on tiendrait que les gros, parce qu'il y a... Il faut comprendre que des références, derrière, il y a tout un travail de design. Il faut payer des stylistes, des personnes qui vont créer ce modèle-là. Et en fait, ça coûte énormément d'argent, sauf que des marques comme Chine, elles utilisent l'intelligence artificielle, et voire même elles copient les modèles d'autres personnes. Mais donc, 10 000 références, c'est déjà énorme pour une marque.
Alors, comme d'habitude, on est, comme à chaque fois qu'on travaille sur un problème écologique, on est dans une complexité énorme. Là, vous venez d'évoquer des designers, etc. Ça veut dire que forcément, si on réduit les références, on va aussi créer finalement des suppressions d'emplois.
Pas forcément, comme je l'ai dit. Déjà, je ne parle pas encore une fois de limiter les références, mais de considérer comme de la fast fashion au-delà de 10 000.
Donc, d'accord.
Je n'ai pas parlé de limiter. Et au-delà, quand je dis Chine, c'est 470 000 références, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'emploi qui va être perdu. Au contraire même, c'est de l'intelligence artificielle qui va voler la création de stylistes, de designers qui ont travaillé eux-mêmes sur ces modèles.
Et déjà aujourd'hui, vous repérez cette influence de l'intelligence artificielle ?
Ah bah oui, elle est là depuis longtemps même, hein. C'est très présent. On peut pas, je veux dire.
Bah, racontez-nous parce que nous, en tant que consommateurs, on se rend pas bien compte, effectivement.
Si vous allez sur le site de la marque Chine, vous avez à peu près en 2023, on avait fait le travail, mais ça a évolué. 50 000 nouveaux modèles par jour.
Oh, c'est vêtements. Incroyable.
Donc vous vous rendez bien compte que chaque jour, c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui créent 50 000 modèles pour une marque. C'est impossible. C'est déjà là, l'intelligence artificielle. Elle est déjà utilisée par les marques aujourd'hui pour analyser les tendances sur les réseaux sociaux et pour en extraire des modèles et des références de vêtements.
Bon, maintenant, je vais peut-être poser une question qui peut vous parler à vous parce que vous appartenez à un groupe qui est international, mais ces références, elles prennent en compte plusieurs types de cultures, par exemple. Avant, on fabriquait souvent du textile uniquement pour l'Europe. Or, maintenant, on s'aperçoit, si on va justement dans des magasins comme Zara ou autres que vous évoquiez, on s'aperçoit qu'on travaille à la fois pour le Maghreb, on travaille à la fois pour l'Afrique. Enfin, il y a d'autres modèles que le modèle européen ou le modèle américain, quoi.
Dans quel sens ?
Dans la mesure où on s'aperçoit, par exemple, en tant que consommatrice, je m'aperçois aujourd'hui que beaucoup de choses sont des robes longues, ont des manches longues, etc. C'est-à-dire qu'on prend en compte des critères qui sont des critères maghrébins et qui ne sont pas forcément les critères de l'été européen, enfin méditerranéen, par exemple.
Oui, c'est sûr. Je suis pas du tout expert en mode et en design.
Il faudrait.
Mais en effet, je pense on est dans un monde globalisé. Je pense qu'en effet, les tendances et les attributs esthétiques qui avant étaient cantonnés à un continent ou à un pays ou à une région, aujourd'hui, tout ça s'est développé et diffusé. Du coup, en effet, je pense que parce qu'il y a on va piocher un petit peu partout pour essayer de créer des nouvelles tendances.
J'ai posé ma question autrement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en limitant, par exemple... vous m'avez dit que vous ne limitiez pas. Vous alliez donner un nom de fast fashion à partir du moment où on dépasserait les 10 000 références. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre, justement, cette uniformisation de la mode, enfin, je veux dire, de la manière de se vêtir. De la même manière, par exemple, que le jean a envahi le monde, que on finisse par s'habiller partout pareil, quoi.
Est-ce qu'on va revenir à la blouse?
Ah non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je veux dire, par exemple, est-ce que les Indiennes vont quitter leur sari? Est-ce que les Africaines vont quitter leur boubou? Voilà, c'est plutôt de cela que je veux parler.
Alors, j'ai l'impression que déjà, cette évolution culturelle de l'habillement a déjà commencé depuis...
Oui, c'est ça.
Je pense même que c'était bien avant l'arrivée de la mode, hein, Je prends l'exemple du Japon où le kimono était l'habit traditionnel. Ça a quand même arrêté au début du XXe siècle. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus aujourd'hui la mode n'est pas figée et ça fait bien longtemps qu'elle évolue. Au-delà de ça, je n'ai pas peur aujourd'hui d'une uniformisation vestimentaire quand on parle en tout cas de mettre des seuils au-delà desquels on va trop loin. Je pense que la mode va s'en sortir très bien sans avoir besoin de sortir des millions de nouvelles références par jour.
D'accord.
Des millions de nouveaux modèles par jour.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen maintenant? Qu'est-ce que vous nous proposez? On a, par exemple, on voit se mettre en place des fédérations de mode circulaire. Enfin, là-dedans, il y a tout. On peut trouver un peu de tout. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'association écologique, des choses à proposer aux citoyens?
Oui, bien sûr. Déjà de nous suivre, le travail qu'on fait, que moi je fais en tant que représentant des Amis de la Terre France, je le fais, je suis on va dire poussé, en tout cas soutenu par les personnes qui suivent ce qu'on fait aux Amis de la Terre, qui adhèrent à notre fédération, et ça me permet aussi d'avoir une légitimité dans le travail que je fais quand je rencontre des décideurs et des décideuses politiques. Mais au-delà de ça, on vient de lancer aujourd'hui, hier, une pétition, justement pour appeler l'Europe à mettre fin un petit peu à l'impunité du secteur de la fast fashion. Et donc, je vous invite à signer. Elle est disponible. On a le lien qui est disponible sur nos réseaux sociaux.
Mais au-delà de vos plaidoyers, qu'est-ce qu'un citoyen ou une citoyenne peut faire, hein, concrètement aujourd'hui?
Alors, on peut évidemment essayer de se limiter en termes d'achat de nouveaux vêtements, de ne pas tomber dans le piège que nous tend la fast fashion de toujours nous inciter à consommer des nouveaux vêtements. Et si on a besoin d'acheter de nouveaux vêtements, essayer d'aller dans des friperies, d'acheter de la seconde main, de ne pas acheter du neuf. Ça, c'est un acte individuel.
Alors ça marche quand même. C'est quelque chose qui est en train de se développer.
Ça marche très peu, honnêtement. C'est même un discours de greenwashing, finalement, notamment par Vinted. Je ne sais pas si vous voyez la plateforme en ligne qui fait de la seconde main. Aujourd'hui, je fais une distinction entre seconde main, on va dire, des acteurs caritatifs, qui, eux, font vraiment un vrai travail, qui d'ailleurs souffrent aujourd'hui de la fast fashion, qui se retrouvent avec des quantités énormes de vêtements, mais vous l'avez dit, de mauvaise qualité, dont ils ne savent pas quoi faire. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a Vinted et la seconde main lucrative qui donne l'impression qu'on va faire quelque chose de bien parce qu'on va revendre un vêtement qu'on ne porte plus. Mais finalement, ça devient presque le déversoir de la fast fashion, parce qu'on peut se dire, j'achète un vêtement 5 euros, je le porte 3 fois, mais ensuite, je ne vais pas le jeter, je vais le revendre et lui donner une seconde main. Donc en fait, ça devient presque une sorte de manière de se déculpabiliser que de faire ça. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'idée avec la seconde main, on est d'accord, c'est finalement de concurrencer le neuf. C'est-à-dire, ben voilà, j'achète de la seconde main pour ne plus acheter de vêtements neufs. Mais dans les faits, ça n'a pas concurrencé.
Alors, justement, là, il ne nous reste plus que 2 minutes, mais on va essayer quand même. Il y a un problème dont on n'a pas du tout parlé, c'est que les nouveaux vêtements ne sont pas recyclables. C'est-à-dire, ils sont souvent dans des matières qui ne permettent pas de recycler. Et c'est pour ça qu'on est en face de masses énormes.
Oui, le recyclage n'est pas la solution dans tous les cas. Le recyclage, c'est aussi un petit peu un piège de l'industrie de la fast fashion qui veut nous faire croire qu'on va pouvoir tout recycler. c'est pas tellement la question des vêtements qui ne sont pas recyclables que du fait qu'on ne puisse pas recycler les vêtements. Aujourd'hui, pour faire des nouveaux vêtements avec des vêtements usagés, on est à moins de 1% en termes.
Ah, c'est très très peu.
Mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas la technologie nécessaire et on ne sait même pas si on pourra l'avoir un jour. Il y a plein de nouveaux projets d'usines très prometteurs dans lesquels il y a plein de financements publics et privés qui vont, mais qui n'ont rien délivré en termes vraiment de résultats. Il y a même certaines de ces usines qui ont fait faillite. Donc le recyclage, malheureusement, aujourd'hui, ça devient l'alibi du jetable. C'est de dire on peut consommer, on peut continuer à produire autant parce qu'on va recycler. Mais dans les faits, ça ne marche pas. Et surtout, c'est pas parce qu'on recycle qu'on produit moins de vêtements neufs à partir de matières vierges.
Tout ça, donc, va être très compliqué. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Vous attendez finalement la nouvelle loi pour quand, alors
Elle va être débattue le 2 et le 3 juin,
d'accord.
Puis le 10 juin au Sénat.
Bon, bah alors donc on va suivre effectivement comment ça. Et puis je verrai à ce moment-là. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler.
Très bien, avec plaisir.
À bientôt. Merci pour votre témoignage.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.